Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h temps universel. Dans 30 minutes, vos témoignages, et ils sont déjà très très nombreux au standard et sur nos réseaux sociaux. Nous allons parler ce matin des embouteillages monstres qui paralysent quotidiennement la ville de Kinshasa. La semaine dernière, lors de son discours à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Félix Tshisekedi a évoqué l'enfer des bouchons qui, je le cite, rendent difficile la vie à des millions de personnes. Kinshasa, ce sont 17 millions d'habitants. Les boulevards, les avenues sont saturés de voitures. Se déplacer dans la capitale congolaise est un véritable cauchemar. Pourtant, il y a eu des mesures prises, adoptées ces dernières années, mais elles ont toutes échoué. Alors, comment désengorger le trafic automobile à Kinshasa? D'ailleurs, où que vous soyez en ce moment, vous êtes peut-être bloqué dans les embouteillages à Abidjan, à Dakar, à Cotonou, à Lagos. Vous êtes confronté au même casse-tête, appelez-nous. Vous avez la parole ce matin, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Pour mieux commencer l'actualité, nous allons commencer avec El Bessir. Je crois qu'il est en ligne. Bonjour El Bessir.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Et merci de nous écouter à Bamako, de nous suivre sur les réseaux sociaux. El Bessir, vous avez des questions après l'arrestation à Abidjan d'un membre du CNT, le Conseil National de Transition du Mali, qui, je le rappelle, fait office d'Assemblée Nationale pendant la transition.
Oui. Mamadou Hawa Gassama a été arrêté à Abidjan pour des propos visés hostile contre les autorités ivoiriennes. Quels sont les propos qu'ils ont reprochés? Que risque-t-il?
Alors, Mamadou Hawa Gassama, arrêté, inculpé et écroué. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant régional de RFI, Mamadou Hawa Gassama a finalement été rattrapé par plusieurs vidéos qu'il a lui-même postées sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Il y a au moins trois sorties de Mamadou Hawa à Gassama qui sont visées. Dans l'une des vidéos, par exemple, celui qui est aujourd'hui membre du Conseil national de transition du Mali, vous l'avez dit, le Parlement installé par la junte, parle du régime ivoirien, du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Les termes utilisés sont très violents. La doyenne des juges d'instruction du tribunal d'Abidjan, qui l'a inculpé le 2 juillet dernier, l'accuse notamment d'outrage, d'incitation à la déstabilisation des institutions.
Et parmi les motifs d'inculpation de Mamadou Hawa Gassama, il y a également, Serge Daniel, atteinte au moral des militaires détenus. De quoi s'agit-il ?
Alors nous sommes en juillet 2022, 49 militaires ivoiriens sont arrêtés au Mali à leur arrivée à l'aéroport. Pour Bamako, ce sont des mercenaires. Faux, ils étaient en mission officielle, répond Abidjan, qui reçoit sur le dossier le soutien du secrétaire général des Nations Unies. Alors Mamadou Hawa Gassama commente sur les réseaux sociaux l'affaire avec verve. Il est également rattrapé par ces propos-là. La justice ivoirienne sur ce volet de l'affaire, l'accuse d'avoir porté, comme vous le dites, atteinte au moral des militaires ivoiriens détenus. Rappelons que ces militaires ont été à l'époque condamnés avant d'être graciés par les autorités maliennes.
Et que risque-t-il, Serge Daniel, s'il est reconnu coupable ?
Alors, s'il est reconnu coupable lors du jugement prévu dans quelques mois, pour tous ces mobiles d'inculpation, il risque, selon les lois ivoiriennes, jusqu'à 10 ans de prison ferme. Les charges retenues contre lui sont assez lourdes, vous l'avez dit, atteinte au moral de militaires détenus, mais il y a également outrage, mais surtout incitation à la déstabilisation des institutions. Ce sont les juristes consultés qui disent que ce sont des faits assez graves.
Effectivement. El Bessir, vous avez d'autres questions à poser? Profitez-en, Serge Daniel est avec nous.
Comment réagissent-ils les autorités maliennes de cette situation?
Alors, réaction à Bamako ou pas pour l'instant, Serge Daniel?
Alors, Écoutez, officiellement, il n'y a pas de réaction à Bamako, pas de communiqué, pas de saisine des autorités ivoiriennes, du moins c'est à notre connaissance, contrairement à l'affaire d'ailleurs des 49 militaires ivoiriens arrêtés en 2022 à Bamako. Il n'y a pas encore, à notre connaissance, je le disais, dans l'actuel du dossier, d'un canal officiel ou officieux de négociation. Mais le gouvernement malien suit le dossier quand même. Il y a eu des indiscrétions. Mamadou Awa Gassama a choisi pour le défendre, notamment l'avocat malien Maître Mamadou Konaté, qui est inscrit au barreau de Paris et de Bamako. Il est ancien ministre de la Justice, mais un peu la bête noire de la junte malienne. Et selon l'entourage de Mamadou Awa Gassama, à Bamako, des proches, ou du moins des sympathisants du pouvoir, auraient souhaité un autre avocat pour lui. Pas question, aurait-il répondu pour lui. L'avocat Mamadou Konaté peut contribuer à le sortir de cette affaire.
Et je parle sous votre contrôle, Maître Mamadou Konaté est arrivé hier à Abidjan.
Tout à fait, il est arrivé d'après nos informations.
Merci beaucoup Serge Daniel d'avoir pris quelques instants ce matin pour répondre à El Bessir qui était en ligne de Bamako, la capitale malienne. 8h17, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Félix.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour tous les auditeurs de RFI.
À Kampala, en Ouganda, et vous avez des questions sur le Dalai Lama, le chef spirituel du bouddhisme tibétain.
C'est exact. Le Dalai Lama a affirmé que son successeur serait désigné après sa mort, ce qui a rapidement fait réagir le gouvernement chinois. J'ai deux questions à propos. Première question, pourquoi le Parti communiste chinois veut-il absolument intervenir dans le processus qui relève du domaine religieux ?
Alors c'est vrai que le Dalai Lama a évoqué la question de sa succession à l'occasion de ses 90 ans qu'il a célébrés ces derniers jours. Il a pris la parole à Dharamsala, le siège des Tibétains en exil. Dharamsala, c'est en Inde. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service international de RFI, ancienne correspondante de RFI à Pékin. Le Dalai Lama a effectivement déclaré que son successeur serait désigné selon la tradition et que personne n'avait le droit de s'en mêler. Et effectivement, Félix a fait référence à la réaction immédiate de Pékin. Pékin qui affirme que le successeur doit être approuvé par le gouvernement central. Expliquez-nous.
Oui, cela paraît en effet absurde que le régime chinois réclame ce droit de décider qui sera le prochain chef spirituel des Tibétains, alors que effectivement, le Parti communiste est anti-religieux, athéiste, par définition. Mais c'est bien sûr, Félix, une question d'influence et de contrôle. Choisir le 15e Dalai Lama doit permettre à Pékin de couper court à toute contestation de sa mainmise sur le peuple himalayen, car 75 ans d'occupation n'y ont vraiment rien changé. Le Dalai Lama est toujours autant vénéré et il est aujourd'hui le seul capable de fédérer la résistance. Depuis 1950 et l'invasion par la Chine, c'est lui qui incarne le combat pour la liberté du Tibet dans le monde entier, au grand dam, bien sûr, de Pékin. Pékin qui considère le Dalai Lama comme un dangereux séparatiste, un loup dans des habits de moine. L'enjeu de la succession est donc crucial pour Pékin. Et déjà, en 2007, le Parti communiste a décrété que toute réincarnation du Bouddha vivant doit être validée nécessairement par le gouvernement central, donc par Pékin.
Ouais, quel est l'intérêt pour Pékin de contrôler la succession du Dalai Lama?
Eh bien, chef spirituel fantoche et donc à la botte de Pékin, n'oserait bien sûr pas mettre en cause la souveraineté chinoise sur le Tibet. Au contraire, il aiderait Pékin à affaiblir tout mouvement indépendantiste et à faire du Tibet finalement une région complètement chinoise. Alors, admettons que le Dalai Lama choisisse son successeur, né dans le monde libre, comme il l'a promis ces derniers jours.
Né dans le monde libre, ça signifie hors de Chine, hein, hors de la Chine.
Exactement. Et que la Chine, de son côté, nomme son propre candidat, le Tibet serait alors représenté par deux figures rivales. Résultat, ça diviserait la communauté tibétaine et du coup, Pékin aurait les mains plus libres. La sinisation à marche forcée de la religion bouddhiste, l'interdiction de la langue tibétaine à l'école, mais aussi ailleurs, ou encore la rééducation des moines et la destruction de leur monastère serait donc, bien sûr, beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
Ouais, vous avez d'autres questions, Félix?
Oui, j'ai la dernière question. Quelles sont les règles traditionnelles pour désigner les successeurs du Dalai Lama?
Alors, chaque Dalai Lama, si j'ai bien tout compris, est la réincarnation de son prédécesseur. Et visiblement, c'est un processus assez compliqué, assez rigoureux.
Oui, c'est compliqué. La sélection suit un protocole très, très complexe, ancré dans le bouddhisme tibétain. Des oracles sont interrogés. Et un lac sacré, qu'on appelle le lac des visions, est scruté. Le moindre signe, comme par exemple un arc-en-ciel ou une pluie particulière, peut aider à trouver le prochain Dalai Lama. On sait par exemple que le 13e chef spirituel, donc le prédécesseur de l'actuel, tournait sa tête vers l'est à sa mort. Une délégation de religieux de haut rang était alors partie en direction de l'est pour trouver un garçon né à peu près à la même date. Et une fois cet enfant repéré, il devait reconnaître des objets qui ont appartenu au chef spirituel qui venait de mourir. Toute cette procédure, Félix, peut prendre des années. Pour le 14e, donc l'actuel Dalai Lama, eh bien la recherche a pris pas moins de 4 ans.
Ah oui, 4 ans tout de même. En tout cas, le Dalai Lama insiste que seule une institution placée sous son autorité est habilitée à reconnaître le prochain Dalai Lama, ce que Pékin conteste.
Oui, bien sûr. Pour imposer son propre chef spirituel, Pékin a d'ailleurs ressuscité un ancien système qui date de la dynastie Qing et qui consiste à piocher le nom du successeur dans une urne d'or gardée à Lhasa. Il faut dire que la Chine n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 1995, Pékin avait imposé son Panchen Lama, c'est la deuxième plus haute figure spirituelle du Tibet. À l'époque, le Dalai Lama avait désigné un enfant de 6 ans, mais 3 jours plus tard, ce garçon avait mystérieusement été enlevé par la Chine et il n'a jamais réapparu depuis. Pour le moment, la question de cette succession du Dalai Lama reste quand même assez théorique. Elle ne se posera a priori, en tout cas, qu'à la mort de l'actuel Dalai Lama. Or, il a rassuré ces derniers jour lors de ces célébrations la communauté tibétaine en disant qu'il vivrait peut-être encore 30 ou 40 ans.
Bon, ce qui fera donc de lui un Dalai Lama de 110, 120 ans. Bon, on lui souhaite
un
de vivre le plus
moine.
Longtemps possible. Félix, bonne journée à Kampala. Merci de votre fidélité.
Merci de m'avoir donné la parole, Rouen.
Bah, c'est normal, on est là pour ça tous les matins. On est ouvert à 8h10, temps universel. Heiko Schmidt, à très vite. Journaliste au service international de RFI. Il est 10h22 à Paris. Vos questions, elles ont été nombreuses d'ailleurs hier à nous arriver au standard et sur les réseaux sociaux sur Elon Musk. Et oui, le milliardaire a mis sa menace à exécution. Il a annoncé le week-end dernier la création de sa formation politique, le Parti de l'Amérique. America Party. Bonjour Junior.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Kinshasa, nous vous écoutons.
Merci. Elon Musk a lancé son propre parti politique, sachant qu'il ne peut pas se présenter à la présidentielle. Quel est donc son objectif? Et a-t-il des propositions concrètes pour répondre aux défis actuels des États-Unis?
Bonne question. Bonjour Françoise Coste. Historienne et professeure d'études américaines à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Rappelez-nous déjà pourquoi Elon Musk ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis.
Et oui, Junior a raison, hein, il connaît bien la Constitution des États-Unis, parce que le deuxième article de la Constitution des États-Unis spécifie bien que tout candidat et tout président des États-Unis doit être, l'expression consacrée, c'est « natural born citizen », qu'il traduit et comprise comme étant citoyen né américain, né aux États-Unis.
Donc il ne peut pas être...
Ce qui n'est pas le cas de Musk,
qui est né en Afrique du Sud. Effectivement, il a été naturalisé américain en 2002, donc il ne peut pas se présenter comme président, ni comme vice-président d'ailleurs.
Et non, parce que s'il était le vice-président d'un président qui démissionne ou meurt pendant son mandat, il deviendrait président. Or, il n'est pas citoyen né aux États-Unis.
Donc il ne peut pas se présenter. Pourquoi donc créer un parti politique?
Alors ça a l'air d'être juste une vendetta personnelle. C'est-à-dire que on a bien vu à l'été dernier, à peu près à la fin de l'été, il a rejoint la campagne de Trump, on n'a jamais compris au nom de quoi ou en tant que quoi, mais bon, donc il a été très présent dans la campagne, il a dépensé je crois $250 millions pour financer la campagne de Trump. Quand Trump a gagné, il a pris la tête de cette agence Doge d'efficacité gouvernementale. À partir de janvier, Trump lui a donné, grosso modo, les clés du gouvernement fédéral pour qu'il aille faire le ménage dans le budget et tout ça. Et puis, on se souvient qu'il y a quoi, un mois à peu près, tout ça s'est fini à notre boudin parce que Musk est parti de Washington et Doge... Enfin, c'est pas très clair ce qu'il advient de Doge, d'ailleurs.
Oui.
Bon, bref.
Mais en tout cas, ce que reproche...
a très mal pris cet échec.
Oui, et ce que reproche également Elon Musk à Donald Trump, c'est cette loi budgétaire promulguée il y a quelques jours par le
une
président
semaine,
américain.
Même pas une semaine. Vendredi dernier, je crois.
Oui. Effectivement.
C'est-à-dire que la cerise sur le gâteau, ça a été, donc il était déjà, il ruminait sa vengeance, et vendredi dernier, effectivement, Trump a promu la BBB, la Big Beautiful Bill, qui est une immense loi financière, à la fois sur le budget, les impôts, la sécurité aussi, et toutes les actions indiquent que ça va faire exploser encore plus le déficit fédéral américain, qui est déjà énorme, et Musk, lui, c'était ça son idée derrière Doge, c'est pour ça que tout est lié. L'idée de Doge, d'après Musk, c'était de lutter justement contre le déficit américain et cette loi ne va faire que l'empirer.
Oui, donc, Elon Musk, aujourd'hui, il veut se venger de Donald Trump, d'où la création de ce parti.
Voilà, c'est ça l'idée. C'est presque naïf quelque part, c'est-à-dire que Musk, lui, dit ce parti va enfin régler la question budgétaire et la question de la dette aux États-Unis, sauf que, comment dire, parce qu'il a cru vraiment naïvement à Trump quand il a dit « moi je vais faire quelque chose pour la dette ». Or, les partis républicains, ça fait 40 ans, voire 50 depuis Reagan, que quand il est dans l'opposition, il dit « le plus grand problème des États-Unis, c'est la dette, élisez-nous, nous on va nettoyer ça ». Et à chaque fois, au contraire, les républicains empirent la dette parce qu'ils font des immenses, comme la semaine dernière, baisse d'impôts pour les plus riches qui, bien entendu, ben, baissent les recettes de l'État et donc il faut compenser en empruntant sur les marchés mondiaux. Donc voilà, lui, il y croit encore et donc il voit
mais
bien
François
que c'est pas le Parti républicain qui fera ça.
François Coste, il crée un parti politique, d'accord, mais a-t-il des idées, a-t-il un programme politique, Elon Musk ?
Alors, ses idées, c'est ses obsessions personnelles, c'est-à-dire donc faire quelque chose sur la dette, bon courage avec ça, et être contre les woke. Voilà, c'est à peu près, c'est marotte, quoi. Mmh. Et la question, c'est est-ce que ça suffit pour créer un parti ? Qui est la base de ce parti ? Qui est la cible de ce parti ? Des gens comme Musk ? Mais il n'y en a pas beaucoup. La viabilité du parti...
Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il a publié un sondage sur sa plateforme X. 1,5 million de personnes ont participé à ce sondage. 65% plébiscitent son initiative.
Oui, mais les algorithmes sur X, est-ce qu'il les a manipulés ou pas ? Et puis, c'est pas pareil de répondre à une question sur X.
Bien
et
sûr. Et
militer.
Ensuite, franchir le cap, être adhérent d'un parti politique, militer, puis aller voter, en l'occurrence, lors des élections de mi-mandat en novembre 2026. Reste avec nous, Françoise Coste. Sanga a une question à vous poser. Il est en Côte d'Ivoire. Bonjour, Sanga. Allô, Sanga. Êtes-vous là, Boeké, en Côte d'Ivoire, qui voulait savoir si l'initiative d'Elon Musk pouvait vraiment mettre fin au bipartisme ? Qu'en pensez-vous, Françoise Coste ?
Ça sera très difficile. Le bipartisme, ça fait 200 ans qu'il existe aux États-Unis. Il y a eu plein de tentatives pour faire émerger des troisièmes partis. Régulièrement, ça arrive. Le seul troisième parti qui a réussi, c'est justement le Parti républicain, il y a 150 ans. Donc, Musk, il doit connaître cette histoire, enfin, où on le lui a dit. Le pari qu'il fait, c'est que, OK, c'est difficile, mais tous les anciens troisième parti qui ont échoué, ils avaient une différence avec le mien, c'est que moi, je suis l'homme le plus riche du monde. C'est vrai. Donc, il y a l'argent, là. Et Musk fait le pari qu'avec ses fonds illimités, il peut détruire le bipartisme actuel.
Oui, sa fortune dépasse les 350 milliards de dollars, mais l'argent ne fait pas tout, Françoise Coste. Il y a des règles aux États-Unis et il faut remplir un certain nombre de critères pour qu'un parti politique soit reconnu à l'échelle étatique, sur l'ensemble du territoire américain.
C'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut être présent dans chacun des 50 États. Donc il faut avoir on revient à la question précédente, des militants partout aux États-Unis, pour ensuite trouver des candidats qui sont acceptés, vous avez raison, par les autorités de chaque État, qui ensuite impriment les bulletins, par exemple, les bulletins de vote, où apparaissent le nom des candidats du parti. Mais voilà, Musk, ça, il suffit de payer des avocats pour faire tout ce travail.
Oui, effectivement, mais il y a du travail, effectivement, avant que son parti soit reconnu sur l'ensemble du territoire américain. Merci infiniment, Françoise Coste, professeur d'études américaines à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, 10h30.